Il est 9h. Tout de suite, le journal avec vous, Antoine Denecher. Bonjour.
Bonjour. Ce matin sur BFM TV, Manuel Valls salue Bernard Cazeneuve, un homme intègre, un homme d'État, un ministre de l'Intérieur formidable, et dénonce une polémique politique qui vise à déstabiliser le gouvernement. Le Premier ministre réagit ainsi aux accusations d'une policière municipale de Nice chargée de la vidéosurveillance et l'attaque depuis hier la place Beauvau, Delphine Gautreau.
Voilà ce que raconte Sandra Bertin. Le lendemain de l'attentat du 14 juillet, un policier vient la voir au centre de supervision urbain où elle gère toutes les images de vidéosurveillance de Nice. Le commissaire lui aurait alors demandé de mentionner dans son rapport la présence de policiers nationaux sur deux points spécifiques du dispositif. Des policiers qu'elle dit ne pas avoir vus ce soir-là sur les images. Le commissaire lui aurait alors passé Beauvau au téléphone, explique Sandra Bertin au micro de Gaëlle Joly.
J'ai été harcelée, cette personne n'a eu de cesse d'appeler et celle-ci voulait absolument que je fasse apparaître dans mon rapport des positionnements précis quant aux forces de police d'État. Ce n'est pas que les policiers n'y étaient pas, c'est le fait que je ne les voyais pas.
Sandra Bertin finit par envoyer par mail deux rapports. L'un d'eux est modifiable, comme l'aurait exigé, dit-elle, le ministère de l'Intérieur. C'est absolument faux, s'est défendu hier soir sur France 2 Bernard Cazeneuve.
Je connais la vérité, je sais qu'aucun membre de mon cabinet n'a jamais été en contact avec Madame Bertin. Si elle veut, Madame Bertin, que nous sortions rapidement de l'ambiguïté de ces accusations, elle n'a qu'une chose à faire, c'est donner le nom de la personne de mon cabinet avec laquelle elle a été en contact.
Sandra Bertin se dit prête à fournir ces éléments à la justice. Deux paroles, deux versions. On verra quelles sont les réponses judiciaires apportées à toute cette affaire, puisque la justice est désormais saisie.
Voilà maintenant une information qui pourrait mettre la SNCF en difficulté dans l'enquête sur le déraillement du TGV Est le 14 novembre dans un test sur la ligne Paris-Strasbourg. 11 passagers avaient été tués. Le Parisien révèle ce matin l'existence d'un essai à haut risque et pas très rassurant, 3 jours seulement avant l'accident, Lucille Guillotin.
Le conducteur du TGV avait eu du mal à respecter les vitesses maximales inscrites sur la feuille de route. C'est ce qui ressort d'un enregistrement que s'est procuré le Parisien. Alors que le TGV roule trop vite, un cheminot dit au conducteur « Il y a 27 km à perdre, là on les perdra pas en 700 mètres, il faut qu'on freine avant ». À bord, l'équipe semble être très inquiète. En février dernier, le bureau d'enquête avait déjà démontré que la vitesse était la cause unique du déraillement du TGV. Il avançait à 243 km/h sur une portion normalement prévue à 176 km/h. Le freinage à l'approche d'une courbe avait été légèrement différé. La rame d'essai avait alors quitté les rails et percuté un pont au-dessus du canal de la Marne au Rhin. Un accident qui avait fait 11 morts et 42 blessés.
Lucille Guillotin de France Bleu Alsace pour France Culture. Un attentat en Allemagne hier soir. Un réfugié syrien a fait exploser une bombe qu'il transportait dans son sac à dos à l'entrée du festival de musique Dansbar. Il est mort. 12 personnes sont blessées. Les autorités bavaroises indiquent qu'il souffrait de troubles psychiatriques et avait tenté de se suicider à 2 reprises. Ils étaient 20 000 à Cleveland la semaine dernière pour la convention républicaine. Ils devraient être 50 000 cette semaine à Philadelphie. Les démocrates vont officiellement investir Hillary Clinton comme candidate à la présidentielle. Pour Clinton, cette convention va être l'occasion surtout de se démarquer des outrances du camp Trump, Frédéric Carbone.
Pour les démocrates, Philadelphie doit être l'inverse de Cleveland. La convention républicaine fut chaotique et égocentrique. La leur doit être disciplinée et collective. Ce sera donc une photo de famille prestigieuse sur laquelle personne ne manquera. Ni Barack Obama, ni Bill Clinton, ni Bernie Sanders qui prendra la parole aujourd'hui. Le message est évident. Toutes les énergies sont indispensables et Hillary Clinton se pose un anti-Donald Trump.
When he says... I alone can fix
Quand il dit qu'il peut tout régler tout seul, il n'a pas seulement tort, il est également dangereux. Nous serons plus forts ensemble, lance la candidate. Cette convention doit également corriger le tableau crépusculaire dépeint par les républicains. Une Amérique de toutes les couleurs et de tous les genres va ainsi défiler à Philadelphie. Vous verrez plus de Noirs, plus d'Hispaniques, plus de femmes, se félicite cette déléguée de Floride qui résume d'une phrase « Trump, c'est la haine, Hillary, c'est l'amour ». Une démonstration de confiance et d'ouverture, mais Hillary Clinton le sait, elle doit aussi montrer qu'elle est un facteur de changement. Elle ne peut pas abandonner ce terrain à son adversaire.
Au Royaume-Uni maintenant, on n'a pas fini de parler des conséquences réelles ou supposées du Brexit, notamment sur le plan économique. Le National Audit Office alerte le gouvernement sur les dépenses de l'État britannique concernant les grands projets. Certains devraient être abandonnés, estime ce qui est peu ou prou l'équivalent de notre Cour des comptes, notamment le projet de centrale nucléaire à Hinkley Point construit par EDF, Annabelle Grelier.
Pessimiste, le Cerbère des finances publiques britanniques demande au gouvernement de freiner de toute urgence les grands projets que l'État avait programmés avant le Brexit. Nos positions sont solides, mais nous allons devoir affronter une lame de fond, dit-il. Si nous n'en tenons pas compte, notre économie et notre niveau de vie pourraient en pâtir. Le pays va donc devoir renoncer à certains projets de réforme et d'infrastructure, assure ses dernières analyses, et les dossiers sont désormais posés sur la table. Tout d'abord, Hinkley Point, la nouvelle centrale nucléaire, construite par le français EDF et son partenaire chinois de 18 milliards de livres, la nouvelle piste de l'aéroport Heathrow et Gatwick dans le sud-est de Londres, Northern Powerhouse, le projet de modernisation ferroviaire et autoroutier, et enfin la réforme judiciaire initiée par le gouvernement Cameron. Sir Amias Morse en appelle directement au sens des responsabilités de la nouvelle Première ministre, Theresa May, une alerte à prendre au sérieux tant ses prises de parole publiques sont très rares, souligne la presse britannique.
Une correspondance signée Annabelle Grelier. À Nouakchott, les dirigeants de la Ligue arabe se retrouvent pendant 2 jours, l'occasion de discuter depuis la Mauritanie de la sécurité dans le monde arabe à travers la mise en place d'une force arabe, mais aussi de projets économiques comme une union douanière arabe ou encore un marché commun, Valérie Crova.
Une grande tente, symbole de l'hospitalité mauritanienne, trône sur l'esplanade du palais des congrès de Nouakchott pour accueillir les représentants des 21 pays de la Ligue arabe qui seront présents. L'organisation compte en principe 22 membres, mais la Syrie en a été écartée depuis qu'a éclaté le conflit sur son sol en 2011. La capitale mauritanienne a fait peau neuve pour accueillir ce sommet, n'hésitant pas à raser un bidonville un peu trop visible ou à chasser les mendiants, notamment les réfugiés syriens du centre-ville. La zone comprise autour de l'aéroport et du palais des congrès a été transformée en zone militaire. Les autorités mauritaniennes craignent un coup d'éclat des groupes djihadistes qui sévissent au Mali voisin. Plusieurs dirigeants sont attendus, l'Égyptien Sisi, le roi Salman d'Arabie Saoudite ou encore le Soudanais Omar el-Béchir, toujours sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Des dirigeants qui vont tenter de surmonter leurs divergences apparus à Sharm el-Cher en mars 2015, un sommet durant lequel le principe d'une force arabe commune avait été décidé pour lutter contre le terrorisme sans que sa nature ni sa composition n'aient été définies. Il devrait à nouveau en être question pendant ces 2 jours. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz veut se servir de ce sommet comme d'une vitrine diplomatique, lui qui prendra dans la foulée les rênes de la Ligue arabe durant 2 ans.
La météo en France, nuageux au nord, plus ensoleillé au sud, température cet après-midi de 19 degrés près de la Manche jusqu'à 34 en bord de Méditerranée. Merci à François-Charles Domergue et Martin Desclozeaux pour leur aide ce matin et à Clément Daté à la prise de son.